Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On y voit des vaches en apesanteur voler dans un ciel bleu au-dessus de la mer, telle une image du paradis. Avec ce titre déroutant, pourquoi les vaches ressuscitent, suivi d'une parenthèse, probablement. L'auteur de cette assertion, Franck Dubois, est un théologien religieux dominicain. Son livre, publié aux éditions du Cerf, pose des questions originales sur la création. Il est notre invité. Franck Dubois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes, donc, je le disais, théologien, dominicain. Votre livre est un plaidoyer plein d'humour et de tendresse, mais aussi très sérieux, pour le soin de la création à l'heure où l'espèce animale et la végétation donnent des signes de grosse fatigue. Alors, pourquoi être parti de la résurrection et de la résurrection des vaches? Et d'ailleurs, votre traité ne commence pas par les vaches, mais par un lapin qui s'appelle Cicéron. Oui. Drôle de nom pour un lapin, que de lui donner ce nom d'un avocat, d'un grand orateur romain.
Oui, alors ça commence par une anecdote, mais qui est vraie, comme toutes les anecdotes dans le livre. Hein, c'est le lapin de ma maman qui n'a pas fait de théologie, qui était d'ailleurs assez fâchée quand il y a 20 ans j'aurais annoncé que j'allais être dominicain. C'était pas ce qui était prévu, mais qui nous a toujours raconté cette histoire de son lapin qu'elle aimait beaucoup. Et puis elle est partie en échange linguistique. Et pendant ce temps-là, donc mes grands-parents ont passé le lapin au civet. Quand elle est rentrée chez elle, jeune adolescente, elle était toute dépitée et elle s'est toujours demandé si elle retrouverait Cicéron, ce lapin au ciel. C'est une question, ma foi, intéressante, que j'ai croisée avec quelque chose d'un peu plus sérieux et presque austère, un travail de thèse que j'ai fait sur Grégoire de Nice, un père de l'Église de 4e siècle qui se pose pas la question de la résurrection des vaches, mais qui se pose la question, comme au tout début de l'ère chrétienne, sur la résurrection, comment ça marche, comment nous, les hommes, les femmes, nous ressuscitons avec quel corps,
à quel âge,
avec tous ces cheveux ou non. Moi, j'en ai plus beaucoup. Les auditeurs le savent pas, donc ça m'intéresse aussi à un point de vue personnel là-dessus.
Fallait pas
mais,
le dire.
Mais des questions, plus sérieuses, comme vous dites. Donc c'est le croisement de réflexions un peu anodines, de ma maman, de mes parents aussi. Je parle de mon papa à un moment donné. Et puis plus profonde. Que je pense, croyant ou non, d'ailleurs beaucoup se posent, la vie après la mort, oui, non, comment?
Bien sûr, parce que là on est dans la théologie chrétienne, la grande théologie chrétienne de la création, mais oui. Ce livre, évidemment, parle à tout un chacun.
J'espère.
Aux musulmans, aux juifs, aux bouddhistes, ouais. Que deviendrons-nous et aussi... Que deviendront les animaux? Alors, beaucoup d'entre nous, nous avons eu un animal qu'on a perdu, qu'on a pleuré, et on s'est bien posé la question.
Voilà, donc il y a cette idée de l'animal de compagnie, je commence comme ça. Après, le livre vient évidemment aujourd'hui où la question de la crise écologique est dans tous les esprits, donc il veut aborder aussi ce thème-là, un peu par le haut ou par la fin. C'est-à-dire, si on peut penser en théologie chrétienne, comme chrétien, que le monde dans son ensemble a un avenir en Dieu, c'est-à-dire que tout ne s'arrête pas à la fin des temps. Il faudra encore s'expliquer sur ce terme, que tout ne s'arrête pas, que notre histoire personnelle, les hommes et les femmes, aux hommes et aux femmes, ne s'arrête pas, mais pas plus que l'histoire de tout ce qui nous entoure. Eh ben, ça veut dire qu'on a une responsabilité par rapport à ces autres êtres vivants, les vaches et autres lapins, parce que il convient qu'on leur laisse une chance d'accéder à un avenir qu'il leur est promis aussi. C'est quelque chose comme ça que j'ai voulu dire, vous voyez. C'est-à-dire que c'est très sérieux. Si toute cette création elle a un avenir, on peut pas en faire n'importe quoi aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai voulu dire. C'est moins de savoir quel est l'avenir de cette création. J'en parle un peu. Voilà. Est-ce que mon canari me parlera? Est-ce qu'il aura des plumes magnifiques? Est-ce que mon chimpanzé arrivera à me parler? Enfin, j'en sais rien. Ou mon poisson rouge. Ça, c'est de la théologie fiction. C'est intéressant. Ça fait rire, mais.
Ça
pose des questions,
bien
mais
sûr.
La théologie chrétienne qui est fondée sur la Bible, sur l'Écriture sainte des chrétiens, Ancien et Nouveau Testament, en fait, est très peu armée pour répondre en détail parce que la Bible est très
anthropocentrée
et très pudique aussi sur ce qu'on appelle les fins dernières ou la vie après la mort. Et c'est plutôt bien parce que la Bible se concentre sur l'homme, sur Dieu et sur l'ici et maintenant. Donc, c'est pas très intéressant d'essayer de faire des équilibrations et sur des théories sur comment ça se passera après. C'est plutôt intéressant de se dire, s'il y a un avenir pour cette création après, alors ça a des conséquences pour aujourd'hui maintenant.
Et même s'il n'y a pas d'avenir d'ailleurs.
Même s'il n'y a pas d'avenir, mais mon point de vue de théologien chrétien, c'est de dire qu'il y en a...
Cette provocation au théologien chrétien, il importe de prendre soin de toute façon.
Effectivement. Mais d'autant création. Plus quand on pense, comme quand on croit, comme moi, qu'il y a un avenir. Voilà. Ça ne fait qu'en rajouter sur l'urgence.
Avenir en tant que vie éternelle, hein.
C'est en ça. Tant que vie éternelle. Parce que, il y a deux options. On s'embarque là-dedans. C'est un peu compliqué, mais en fait, facile à comprendre. C'est-à-dire que soit on se dit, il y a un avenir pour la création, justement, pour, je sais pas quoi, aller. Et du coup, il y a une seconde chance, donc on s'en occupe pas, en fait, parce que de toute façon, il y aura une récompense et il y aura un rétablissement, il y aura une réparation et le tort qu'on a commis, voyez, sera gommé d'une certaine façon. Mais ça, c'est pas très responsable. Hein. C'est pas très responsable de penser les choses ainsi. S'il y a un avenir, il se joue maintenant. Et donc, la responsabilité, elle nous est aujourd'hui de ne pas faire n'importe quoi avec ces animaux-là, en l'occurrence, puisqu'on parle des animaux. Et peut-être même des plantes et des arbres, puisque j'aborde la question dans le bouquin aussi.
La Bible,
oui.
Vous le disiez, n'est pas très déserte sur la question de l'au-delà.
Oui.
Et encore moins l'au-delà des animaux, mais ces oui. animaux qu'elle n'a pas bien traités. Quand même. Parce que vous dites finalement aujourd'hui, il faut pas considérer la création, c'est-à-dire la végétation, les animaux, etc., ouais, comme ouais. un décor.
Oui, hein,
c'est un bon
ouais.
terme d'ailleurs. Bon.
Ouais, ouais.
Mais si on lit la Bible, il semblerait quand même que la création est au service de l'homme. Au service de l'homme. Et tout ce que ça suppose, hein.
Alors justement tout ce que ça suppose, hein.
Instrumentalisé donc.
Vous savez bien que la Bible, comme tout texte sacré, hein, elle est interprétable et elle doit être interprétée. Elle ne livre pas brut de décoffrage sa signification. Interprétée à l'aune aussi de la philosophie, de la pensée du temps dans la ligne de sa tradition propre. Bon, aujourd'hui quand on relit ces textes, notamment de la Genèse, hein, des premiers écrits de la Bible. On voit effectivement que Dieu donne à l'homme le service de la création. Et en fait, en relisant ces textes de la Genèse, on s'aperçoit que c'est pas la domination dont il est question, selon les traductions, en fait, c'est plutôt l'idée de l'homme qui doit prendre soin, voilà, qui doit prendre soin de cette création. C'est très visible parce que Jésus reprend cette idée d'un roi qui donne, dans des paraboles qu'il utilise souvent, d'un roi qui confie à un prince ou à des subordonnés son royaume jusqu'à temps qu'il revienne. Et quand le roi revient, il veut voir son royaume dans un meilleur état qu'au début, quoi, que quand il leur a confié ce royaume en question. Ce qui veut bien dire, si le royaume c'est finalement cette terre que nous habitons, que Dieu, qui nous la confie, veut qu'à son retour, nous l'ayons fait fructifier. Et la faire fructifier, ça veut pas dire la piller. La faire fructifier, ça veut pas dire la souiller. La faire fructifier, ça veut dire en tirer le maximum. Alors c'est vrai que pour les chrétiens, l'homme, il a une place particulière dans la création. Hein, il est à son sommet. Mais depuis quand, lorsqu'on est au sommet de n'importe quelle hiérarchie sociale ou ce que vous voulez, on doit être tyran. C'est une idée peut-être un peu moderne et à mon avis assez pessimiste. J'espère que, et je le sais, il y a des personnes qui se trouvent au sommet, à la tête, je sais pas quoi, d'une entreprise, d'État, de congrégation religieuse, d'entreprise publique, qui sont peut-être au sommet, mais qui ont la charge des organisations dont ils ont la charge. Voilà.
Franck Dubois, il y a un courant actuel, les antispécistes, qui entend ne pas donner une hiérarchie à la création, où l'homme et l'animal, finalement, c'est la même chose.
Alors, tout à fait. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une hiérarchie qu'il y a une domination, au sens où on peut l'entendre. Hein. Ça me semble une vue finalement très pessimiste de la société de se dire qu'à partir du moment où un homme, une femme est placé à la tête de n'importe quelle organisation, un État, une société, et si on pense l'homme par rapport au monde, hein, finalement c'est une analogie, il devrait abuser de sa position dominante pour faire trimer tous ceux qui sont en dessous de lui. Eh bien non, c'est une vision encore une fois pessimiste. On peut aussi se dire, et on en connaît tous des exemples hein, autour de nous, qu'il y a des hommes et des femmes de responsabilité qui assument leur rôle hiérarchique comme un service. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, c'est bien ce qu'il dit à ses disciples, hein, je suis pas venu pour être servi, mais pour servir, et cependant, lui-même hein, est le Fils de l'homme, le Seigneur, le premier-né d'entre les morts, enfin, il a une place évidemment éminente parmi les hommes. Eh bien, l'homme, le livre de la Genèse nous dit qu'il a une place éminente parmi toutes les autres créatures. Ça veut dire qu'il a une responsabilité. Le problème, un des problèmes qu'il peut y avoir à se dire que l'homme finalement est un animal comme les autres et n'a pas de place particulière dans cette hiérarchie, c'est que cela peut être très déresponsabilisant. Voilà. En fait, si vous dites qu'on est un animal parmi les autres, eh ben on n'a pas une responsabilité particulière à l'égard, je sais pas quoi, des koalas qui sont tous en train de brûler en Australie, ou des kangourous, ou des coraux qui crèvent de chaud et qui sont aussi en train de mourir un peu partout sous les tropiques, parce qu'on est un animal parmi les autres et donc on n'a pas cette responsabilité, ce qui est évidemment faux. Voilà. Et on sait aujourd'hui, l'éthologie, cette science qui se développe beaucoup, que les chimpanzés ont des capacités cognitives, il y a plein de choses qui se...
Et même que les arbres parleraient entre eux.
Que les arbres peut-être parleraient, j'en parle un peu, oui, dans le livre.
Oui, oui.
Tout ça, ok, mais cela ne gomme pas, et je pense qu'on... Enfin, on peut s'entendre là-dessus. La place particulière qu'a l'homme, c'est quand même l'homme qui a fait cette maison, ce micro, cette maison dans laquelle nous, oui, sommes, ce micro, etc., etc. C'est quand même pas les chimpanzés. Donc, faut pas se voiler la face.
Ni les escargots.
Il faut pas se voiler la face parce que sinon, ça nous déresponsabilise. Et c'est un peu l'air du temps de fuir ses responsabilités, je pense.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invité est Franck Dubois pour son livre « Pourquoi les vaches ressuscitent ?» entre parenthèses, probablement, et c'est publié aux éditions du CERF. Vous vous situez, Franck Dubois, tout à fait dans la ligne de Laudato Si, donc l'encyclique du pape François, oui, sur le soin de la création.
Tout à fait. Ça montre bien que mon propos n'a rien d'original et que...
Votre livre est original, la façon d'aborder est originale quand,
voilà,
même.
Voilà, j'espère. Mais je veux dire, ce que je dis dans le fond n'est pas original. Ça suit une longue tradition chrétienne qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne lit pas la Bible en 2020 comme on la lisait un siècle auparavant, parce que nos yeux se sont ouverts sur un certain nombre de déboires, parce que le progrès technique effectivement a conduit à beaucoup de misère sur cette planète, parce que la condition de millions, de milliards de pauvres sur la planète nous interpelle aujourd'hui, et qu'on se rend compte, bien sûr, que tout est lié, comme le dit le pape François dans son encyclique. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est d'essayer de connecter ces sujets très à la pointe de l'actualité avec une tradition bien plus ancienne. Donc je cite des pères de l'Église du 4e, du 5e siècle pour montrer ces questions, elles étaient déjà là. Et c'est ça la richesse de la tradition chrétienne. C'est-à-dire, on a 20 siècles de tradition derrière nous, sur lesquels on peut s'appuyer. Ça ne veut pas dire répéter les mêmes choses. Ça veut dire retrouver dans des trésors qui nous précèdent, de théologie mais de philosophie aussi, des arguments qui aujourd'hui sont très efficaces, très probants, et qui nous appellent, je le répète, à une responsabilité.
Alors en même temps, dans cette tradition chrétienne, Franck Dubois, il peut y avoir un saint Augustin, un saint Thomas d'Aquin, qui n'accordait pas beaucoup d'importance à l'animal, et puis souvenons-nous quand même de cette interrogation, les animaux ont-ils une âme ?
Tout à fait. J'essaie d'avoir l'honnêteté dans le livre,
qui
est quand même court, de le rappeler, hein, parce que si c'est un débat, il faut avoir cette honnêteté-là. C'est pour ça que je dis, on lit pas la Bible en 2020 comme on la lisait au 13e siècle du temps de Saint-Thomas d'Aquin, au 4e pour Saint Augustin.
Comme on n'a pas à lire le Coran aujourd'hui comme on le lisait.
Voilà, hein, et exactement. Siècle. Cependant, même ces auteurs-là, c'est ça qui sont intéressants. En fait, ont une pensée nuancée. Ils pensent avec les instruments philosophiques de leur temps, mais tout n'est pas à jeter, y compris dans leur perception du vivant. Ce que je dis dans le livre, c'est que la Bible parle de l'homme et de Dieu, c'est son sujet. Et les animaux sont comme à la marge de la Bible, comme vous savez, les anciennes enluminures du Moyen-Âge, où vous avez des belles enluminures de part et d'autre des parchemins, avec souvent des petits animaux, des petits lièvres, des petits singes, souvent assez joueurs d'ailleurs. Et ben c'est la même chose, la Bible, le propos de la Bible, c'est pas l'animal, donc on va pas lire la Bible avec cette question d'abord. Et si on veut chercher ce que la Bible dit de l'animal, il faut aller chercher dans les coins, il faut aller chercher dans les détails, et on peut être agréablement surpris.
Alors, Franck Dubois, si vous vous posez la question de retrouver le lapin de votre mère qui a fini en pâté,
oui,
est-ce que vous pensez que les animaux ont une âme ?
Alors, qu'ils ont une âme, c'est une question un petit peu compliquée, mais je m'en explique dans le livre, c'est tout à fait traditionnel de dire que les animaux ont une âme. La question est de savoir quel type d'âme ? Voilà. Est-ce qu'ils ont une âme aussi développée que l'homme ? La réponse, pour faire simple, c'est non. Mais Ils ont une âme parce qu'une âme, c'est le principe de vie.
Une sensibilité.
Qu'est-ce que c'est
déjà
qu'une âme? En grec, une âme, on peut faire du grec facile, c'est psyché. Psyché, ça vient d'où? Ça vient du souffle. Un animal, ça respire. Voilà. Et donc, ça a une âme. Une plante, ça a aussi une âme, mais ça a une âme moins développée qu'une vache. Et puis, vous et moi, nous avons une âme incommensurablement plus développée qu'une vache. Mais il y a quelque chose qui nous relie, c'est le fait d'être vivant. Et si Dieu est créateur de la vie, eh ben, il veut que cette vie qu'il a créée dure et s'épanouisse. Celle de la plante, celle de la vache, la nôtre. Mais chacun a son rang.
Vous parlez, on l'évoquait tout à l'heure, hein, de décor, effectivement, oui, pour la création, que trop longtemps, la création a été un décor. Expliquez-vous, Franck Dubois.
On peut avoir une conception de la fin des temps, où on se dit, finalement, il n'y a que les hommes qui sont sauvés, les hommes et les femmes, hein, bien sûr, et donc, ils seront comme pris de la terre, par Dieu, aspirés comme dans un ascenseur, et puis ils rejoignent Dieu, et puis le reste de la création n'a plus aucun intérêt. Donc c'est pour ça que je parle de décor. Voilà, les vaches, les plantes, etc. Parce qu'il n'y a que les hommes qui sont sauvés, et donc finalement on n'a pas à se soucier du reste de la création, parce qu'il va finir dans un feu éternel, comme un décor qui, une fois qu'il a servi pour une pièce de théâtre, peut être mis aux flammes, au rebut. Ou un Kleenex, je parle aussi, voilà, on s'en sert et puis voilà. Et ça c'est faux. Pourquoi? Parce que vous et moi, je ne sais pas si vous avez eu, vous, je ne sais pas quoi, un poisson rouge, un canari ou un lapin dans votre jeunesse, mais il a un peu informé la femme que vous êtes aujourd'hui, à sa mesure, certainement moins que ceux qui vous ont élevé, hein, votre famille.
Il a accompagné.
Oui. Et il vous a en partie fait devenir qui vous êtes aujourd'hui.
Comme un animal vis-à vis d'un agriculteur.
Voilà,
l'a
d'autant
aidé
plus,
dans son labeur.
Ce petit bouquin, j'ai fait quelques conférences là-dessus, et les premières personnes qui sont venues me parler, c'est justement des agriculteurs.
Évidemment.
En me disant, il y a quelque chose. Alors moi, je suis complètement un fils de la ville, je suis comme une poule devant un couteau, devant une vache, donc vous voyez, faut pas me demander plus que je ne peux, mais j'étais très frappé de ça et très rassuré d'une certaine façon. Bien sûr que ces êtres vivants-là nous forment, encore une fois, moins, à un degré moindre que nos frères et nos sœurs les hommes, hein, mais quand même. Et donc, s'ils ont été partie prenante de qui nous sommes aujourd'hui, on peut pas dire que la route s'arrête tout d'un coup et qu'ils nous abandonnent en chemin ou qu'on les abandonne. Ben non, on continue à faire un bout de route ensemble. Jusqu'au bout.
Et d'ailleurs, oui, effectivement, vous citez à un moment donné dans votre livre, Franck Dubois, Luther. Luther,
oui,
qui aimait beaucoup son chien.
Son chien, voilà. Alors, il se demande s'il ressuscitera avec ses poils, un pelage doré. C'est très touchant. Ce qu'on voit bien, ces grands théologiens, Luther et les autres, ils ont fait cette expérience que nous faisons. Vous voyez, la création n'est pas jetable, c'est pas vrai. Et je parle même dans le livre des animaux, mais aussi d'un paysage. C'est des montagnes, la mer, tout ça, ça nous forme. C'est des relations qu'on entretient. Ça peut pas s'effacer.
Et vous pensez que les montagnes vont aller au paradis?
Alors,
les cailloux?
Oui, c'est là où il y a une limite à mon
un
discours.
Loin,
c'est-à-dire,
oui,
parce que qu'est-ce que ça veut dire, même qu'une vache ressuscite? J'en sais rien. Et d'ailleurs, je tiens toujours à le préciser. C'est pour ça que, probablement, étant en parenthèse, une vache, en fait, ça ne ressuscite pas. La résurrection, clairement, en christianisme, c'est réservé aux hommes et aux femmes. Hein. Donc, mais c'est pour faire simple qu'on parle de résurrection. C'est-à-dire que, il y a une destinée commune avec nous et avec Dieu pour toute la création. Ça, c'est une façon de comprendre la tradition chrétienne.
La
c'est
grande
ce que
arche
de
Noé dans l'au-delà, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Bah voilà. Si le récit de la Genèse que beaucoup de nos auditeurs connaissent existe, c'est toujours ces récits dans la Genèse des préfigurations de ce qui reste à venir. Alors si Dieu prend la peine de demander à Noé de faire une arche où il va mettre tous ses animaux, ça veut bien dire que la création, il veut la préserver. Et qu'il n'y a pas tellement de raisons pour qu'à la fin des temps, Dieu finalement fasse une grande croix sur toute cette création qu'il a fait en sorte de préserver.
Oui, ou qu'il retrouve une poubelle, comme vous dites, comme vous l'écrivez, quand
voilà,
il revient.
Et oui, qu'il retrouve une poubelle, non parce qu'il ne sera pas content, il nous fera la tête.
Vous parlez du patron, du grand patron.
Le grand patron quand il reviendra. Oui, c'est ça, je dis, si jamais il se demande où sont passés les glaciers des Pyrénées, si il apprend qu'ils sont passés grosso modo dans les glaçons de notre whisky, bah il va pas être content, voilà.
Alors la notion d'apocalypse précisément, la notion d'apocalypse, bon c'est toujours, vous dites que c'est désespérant finalement de penser que la fin des temps, finalement, elle est inéluctable. D'ailleurs, le mot apocalypse, il faut effectivement l'éclaircir. Oui. Mais que si on est dans cette posture-là apocalyptique, oui, un peu comme sont les collapsologues aujourd'hui, eh bien, c'est mettre en péril l'urgence qu'il est d'agir.
Voilà. Vous savez, apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement. Et c'est une bonne nouvelle, l'apocalypse.
C'est pas la fin.
C'est pas la fin.
C'est comme la fin des temps.
C'est la transformation, plus qu'une fin, d'un monde qui passe de l'état présent, qui est déjà pas si mal quand même, c'est aussi ce que dit le christianisme, à quelque chose de glorieux. Okay? Donc c'est une transformation, c'est pas la fin. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Si vous vous représentez la fin des temps, l'apocalypse, comme Dieu qui vient sauver quelques âmes en plus, les plus méritantes, je ne sais quoi, et les retirer du monde, ce que donne à penser plus ou moins directement beaucoup de films apocalyptiques ou d'œuvres apocalyptiques ou les collapsologues, c'est quoi? C'est ça, c'est-à-dire on va tous se retrouver, enfin les plus nantis sur une petite île, on se demande bien ce qu'ils vont y faire de toute façon parce que ça va pas tenir debout, bon ils s'ennuient, ils sont 15 survivants, et puis autour il y a plus rien, bah c'est l'enfer ça. Hein. C'est pas ça du tout dont nous parle l'apocalypse. L'apocalypse c'est tous ensemble ou le plus possible tous ensemble au ciel, et du coup grande responsabilité aujourd'hui pour faire en sorte que ça soit pas 10 clampins sur une île, mais que ça soit le maximum. La Bible est claire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté, c'est son désir. J'espère bien, Dieu est aimant. Dieu, il veut ça pour nous, pour tous. Mais on a une responsabilité de faire en sorte que ça soit possible.
Alors, on terminera sur votre conclusion précisément, hein, sur cette responsabilité, cette oui, co-responsabilité que nous avons, prendre soin des pauvres.
Oui.
Ça, pour vous, c'est essentiel, ça fait partie de l'écologie spirituelle, l'écologie humaine.
Intégrale aussi, on
intégrale,
dit parfois, oui.
Pardon, oui, de l'écologie spirituelle, de l'écologie intégrale.
De l'écologie intégrale, alors c'est un mouvement qui a ses lettres de noblesse aujourd'hui. Le pape François en parle dans Laudato si, bien sûr, tout est lié, dit-il, et donc le sort des pauvres, des hommes et des femmes qui sont les premières victimes d'abord de la crise écologique, et c'est d'abord à eux que nous devons tous les efforts qu'on doit entreprendre aujourd'hui pour la sauvegarde de la création, parce que je reviens sur ce qu'on disait, il y a quand même une hiérarchie, l'homme est quand même à la tête de cette hiérarchie, et les premiers dont il faut prendre soin c'est nos frères et nos sœurs en humanité. Mais prendre soin de nos frères et nos sœurs en humanité veut forcément dire prendre soin du reste de la création, mais c'est à ces hommes et ces femmes-là, hein, que nous le devons. Beaucoup de vos auditeurs dans des pays du Sud qui sont impactés de façon immense par les dérèglements climatiques, les famines, les guerres et les pillages des ressources. On voit bien que la plupart des conflits aujourd'hui sont engendrés d'une façon ou d'une autre à cause de problématiques liées à l'environnement, aux ressources, à l'environnement. Si on veut être sérieux et prendre à bras le corps la question de la pauvreté, alors il faut commencer par l'environnement. Et il me semble que la Bible et la tradition chrétienne peut contribuer à cet effort, parce que nous avons des ressources pour contribuer à la réflexion, et puis, pas seulement des ressources, mais sur le terrain, combien d'hôpitaux, combien de dispensaires, combien d'associations qui œuvrent pour d'abord le soin des hommes et des femmes, mais aussi pour la sauvegarde de la création.
Alors, c'est tout cela que vous avez voulu dire, Franck Dubois, dans votre livre « Pourquoi les vaches ressuscitent ?» Alors, entre parenthèses, probablement, il y a le doute. Est-ce que le doute subsiste chez vous, le théologien, le dominicain ?
Le doute subsiste, comme j'écris à la fin du bouquin, hein, si jamais, quand vous arrivez là-haut, ça n'a aucun rapport avec tout ce que je dis, un conseil, vous m'avez jamais vu.
Je vous remercie, Franck Dubois. Donc, je rappelle que votre livre est publié aux éditions du Cerf.
Merci. Merci.
durant cette rediffusion d'été, nous allons réentendre la voix du grand historien des religions, Jean Delumeau, décédé le 13 janvier dernier à l'âge de 96 ans. Il fait partie de toute une génération d'intellectuels catholiques, laïcs ou religieux qui vient de disparaître. Tout récemment, un autre esprit libre, le théologien jésuite Joseph Moin, qui toute sa vie a questionné la foi chrétienne avec une vigueur intellectuelle intacte jusqu'au bout, est décédé le 28 juillet dernier à l'âge de 104 ans. Et il faudrait citer tous ces noms de ces hommes, penseurs et théologiens catholiques qui ont participé à l'après-concile Vatican II, emportés par l'âge et la pandémie du Covid-19. Les pères Henri Madeleine, André Manaranche, Philippe Lecrivain ou Michel Lelon, pionnier pour ce dernier du dialogue islamo-chrétien. Mais revenons à l'historien Jean Delumeau qui aura mis au grand jour le mécanisme de la peur dans l'Occident chrétien depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. On retiendra parmi ses livres « La peur en Occident » et « Le péché et la peur ». Nous avions rencontré Jean Delumeau en décembre 2015 au Collège de France pour la sortie de son livre « L'avenir de Dieu ». La France vivait alors dans la peur des attentats islamistes. Nous étions revenus sur son parcours, sa jeunesse et l'arrivée à Rome du jeune agrégé de 24 ans qui découvre le foisonnement architectural.
Je découvrais Rome, je n'avais pas d'idée précise. Enfin, je savais qu'il y avait des basiliques, qu'il y avait des palais, mais enfin, là, j'y ai vécu pendant 2 ans. Donc, j'ai étudié un sujet qui était neuf, qui n'avait pas été étudié, la vie économique et sociale de Rome. Ce qui veut dire au sens le plus large, la vie quotidienne. Mmh. Et ça, c'est un travail passionnant de découvrir une ville qui s'est entièrement reconstruite à partir de 1450.
C'est ça, on est bien d'accord, c'est la Rome du XVe siècle.
XVe, XVIe et XVIIe.
XVe, XVIe et XVIIe.
Oui.
De là, l'étude suivante va être celle de la réforme. Qu'à Rome, bien sûr, vous devez sentir, oui, évidemment, cette contre-réforme.
Si je veux dire, mon séjour à Rome n'y est pour rien. Oui. Et là, dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, je raconte comment j'ai été amené à m'intéresser au protestantisme. Car j'ai été élevé, enfant, même jeune homme encore, dans la religion catholique traditionnelle. Bon. Et puis j'arrive à Marseille, en Hippocagne, et on avait 2 professeurs protestants. L'un qui a été assez connu après, Roger Mel, qui a été doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, avec qui, je dois dire, j'ai sympathisé. Bon. Mais il y avait un autre protestant, et moi c'était la première fois que je voyais des protestants. Jacques Monod,
oui.
Comme de la famille, la grande famille.
La grande famille protestante.
Bon. Oui. Et, autres, oui. Et nous donne à étudier en grec le discours sur la couronne de Démosthène. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à Démosthène, bon, mes camarades non plus d'ailleurs. On se met à étudier ce texte, et alors on a tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Parce que Démosthène disait aux Athéniens de son époque, du IVe siècle, ce n'est pas parce que nous avons été vaincus par Philippe de Macédoine que nous étions dans notre tort. C'était transparent. Bon, l'homme avait l'air austère, mais en fait il était très gentil, très attentif, etc. Et à la fin de l'année scolaire, donc c'était en juin 41, il a invité ses cagneux et cagneuses à venir prendre un dessert, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger en 41, mais enfin, à venir prendre un dessert chez lui. Il habitait sur les hauteurs de Marseille, une maison d'ailleurs très accueillante et avec un grand jardin. Mes camarades et moi, nous arrivons. La première chose que nous voyons en entrant dans le jardin, un parterre désignant une croix de Lorraine. Le message était automatique. Bon. Alors, moi j'ai fait Hippocagne et Cagne, première année de Cagne, à Marseille. Après, je suis venu à Henri IV à Paris. Mais, quand j'étais déjà Henri IV, et plutôt après la fin de la guerre, j'ai appris ce qui était devenu Jacques Monod, notre professeur, qui nous enseignait Démosthène. Eh bien, au printemps 44, il est parti, au Maquis. Et durant l'été 44, son groupe a été repéré par les Allemands dans le Massif central. Et il a dit à ses camarades, vous allez dans cette direction. Moi, je reste ici. Il est resté là. Il a été arrêté par le groupe d'Allemands qui lui ont dit, où sont tes camarades? il a indiqué la direction opposée. Ils en sont aperçus, ils l'ont fusillé. Voilà comment j'ai découvert le protestantisme. Et par conséquent, je ne dis pas que dans les écoles catholiques, on m'a dit des choses mauvaises. C'est pas ça. Mais enfin, c'était l'hérésie. Le protestantisme, c'était l'hérésie. Il n'y avait rien à faire. Bon. Et moi, je voyais des hérétiques admirables.
Ça devenait un défi donc pour vous, Jean de Limeau, que de vous lancer effectivement dans ce travail sur la réforme. Que vous a apporté, vous, en tant qu'historien catholique, j'allais dire, que vous a apporté la réforme? Quelle révélation la réforme vous a-t-elle apporté?
Alors, premièrement, quand pouvaient être des saints, être protestants. Car le professeur que j'ai eu en Hippocagne à Marseille pour nous enseigner le grec et le latin était un protestant pieux. Et je savais depuis qu'il était un saint, depuis qu'il s'était dévoué. Alors, vous me direz, les protestants ne reconnaissent pas les saints, c'est vrai. Bon, donc je m'incline, mais en même temps, pour moi, Jacques Monod est resté un saint, un modèle. Un modèle. Et par conséquent, je me suis dit que on m'avait donné du protestantisme une image, sinon fausse, du moins incomplète. Et alors, à ce moment-là, comme j'avais en plus travaillé sur Rome au XVIe siècle, où il n'y avait pas que de bons exemples, je me suis dit qu'il fallait que je revoie mes positions. Donc, je me suis remis en cause comme chrétien, et comme chrétien qui serait désormais attentif à ce qu'on m'enseignait.
Jean de Limeau, en 1977, vous publiez « Le christianisme va-t-il mourir ?» donc avec un point d'interrogation. Et ce livre interroge l'état de la chrétienté au moment de la réforme. Et vous écrivez que lors de l'émergence donc, du protestantisme, il y avait en fait une grande ignorance du christianisme, notamment dans les campagnes. Et vous écrivez que ce rappel historique peut nous éclairer aujourd'hui sur l'état de la déchristianisation de l'Occident.
Alors, je précise, je vous remercie de poser cette question qui est pour moi très importante. Car j'ai un regard sur l'histoire chrétienne qui n'est pas le plus souvent celui de mes collègues historiens et même médiévistes. Car on nous a enseigné que le Moyen-Âge était chrétien. Et ça, aussi bien à l'école privée qu'à l'école publique. Or, c'est à voir. C'est à voir. J'ai trouvé un jour, sous la plume de Georges Duby, qui a enseigné ici, l'affirmation que, avant le XIVe siècle, on ne peut pas parler d'Europe chrétienne.
Pourquoi ?
Parce que, dit-il, et je crois qu'il avait raison, c'était le christianisme d'une élite. L'élite qui gouvernait. Mais c'était pas forcément la religion des campagnes. Or, les gens du Moyen-Âge vivaient à la campagne. Et par conséquent, il faut maintenant se faire à l'idée que les historiens doivent d'ailleurs creuser, à titre d'hypothèse, mais d'hypothèse à mon avis féconde, il faut parler d'état de christianisation. Et avant les ordres mendiants, principalement dominicains et franciscains, donc avant le XIIIe siècle, et même Duby écrivait avant le XIVe siècle, l'Europe était en grande partie restée païenne sans le savoir, car il y avait un habillage chrétien, hein, mais sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. Alors ça, c'est un regard, je dirais, révolutionnaire, et qu'il faut maintenant étudier de plus près.
Et qui fut dérangeant. C'est très dérangeant.
Mais en même temps, qui nous explique pourquoi dans notre Europe, et notamment en France, la déchristianisation actuelle est aussi rapide? C'est parce que la christianisation avait été, malgré le gros effort entre le XVIe et le XXe siècle, malgré ce gros effort, l'Europe n'avait été que superficiellement christianisée. Alors ça, Enfin, c'est un vrai questionnement historique, mais vous savez que l'histoire avance par les questionnements. Et là, je tiens pour certain qu'il faut creuser cette hypothèse.
Et est-ce que ça peut nous éclairer, par exemple, là je pense au pays plus récemment christianisé, le cas du Rwanda, quand il y a eu du génocide, on a dit, oui, ce pays certes est chrétien, mais c'est une christianisation superficielle.
Eh bien écoutez, moi, l'hypothèse que je viens de formuler tout à l'heure s'applique à mon avis pleinement au Rwanda, car avant les drames de la fin du 19e siècle, on nous disait partout, le Rwanda est chrétien. Et puis il y a eu le massacre épouvantable que vous savez. Alors à ce moment-là, tout est remis en question. De quel christianisme s'agissait-il ?
Et aujourd'hui, la déchristianisation en Europe, bon, elle a des causes multiples, mais est-ce que vous pensez que ça peut tenir à une connaissance incomplète ? Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de connaître le christianisme ou la religion en général, s'immerger dedans.
Mais oui, mais ils n'ont pas envie parce que les parents eux-mêmes se sont détachés d'un christianisme qui leur avait été inculqué de façon un peu superficielle. Et en outre, inculqué avec un certain nombre d'erreurs. À commencer par tout ce qui concerne le paradis terrestre, l'évolution, etc.
La culpabilité aussi.
Alors, il y a eu un excès de culpabilisation que nous ne pouvons plus maintenant supporter. Alors peut-être que, dans le sens inverse, on va peut-être trop loin.
Voilà.
Ça, ne me faisons pas dire ce que je ne dis pas. Mais il est certain tout de même que, entre une culpabilisation intensive et un enseignement qui partait du paradis terrestre et de la faute d'Adam et Ève, eh bien, on se trouve devant une situation de re-christianisation. Il nous faut re-christianisation avec les éléments que nous donne notre connaissance de l'antiquité humaine.
Et de la modernité, et les outils de la modernité.
Et de la modernité.
Passons au grand thème de votre vie, de vos études, la peur. La peur, c'est vraiment très intéressant parce que c'était un domaine effectivement inexploré.
Voilà.
La peur dans l'Occident moderne.
En Occident moderne. Alors, voilà.
C'est-à-dire donc 14e siècle.
Oui. Voilà.
15e siècle.
Parce qu'on avait connu la peste, notamment au 5e et 6e siècle en Europe orientale, mais en Europe occidentale et centrale, on avait oublié la peste. Donc c'était une vraie découverte. Et une découverte catastrophique, avec les résultats que vous savez. On dit parfois le tiers, parfois la moitié de la population de l'Europe balayée en 3 ans. Vous vous rendez compte ?
On a du mal à imaginer, oui.
Et oui, mais par exemple, si on se reporte aux pestes du 18e siècle, la dernière grande peste en France, c'est Marseille 1720. Nous avons les chiffres, en gros. Il y a eu 60 000 morts sur 120 000 habitants en 3 mois.
Oui, on imagine les fosses communes, les cadavres dans la rue. Tout. Alors, le lien entre ces grandes peurs, peur aussi de conditions climatiques qui vont être mauvaises pour la récolte, peur de la famine, des disettes. Bon, tout cela entraîne des révolutions urbaines, rurales, des guerres civiles. Le rôle de la religion par rapport à ces peurs, le lien en tous les cas, pas le rôle,
alors,
mais le lien de la religion avec ces grandes peurs.
Pour les pestes, entre le 14e et le 18e siècle, parmi les causes, les gens d'église disaient « C'est parce que nous conduisons mal que Dieu nous punit. C'est la punition. » Alors, c'était une explication qui expliquait dans les églises protestantes des prêches presque continues, en Angleterre par exemple, des prêches presque continues pour essayer de conjurer la peste. Et en France, alors, des processions, des cérémonies diverses, etc. Et par conséquent, on peut dire que le remède religieux était considéré comme le principal. Maintenant, il y en avait d'autres, quand même. Il y avait, on pouvait penser que il y avait des miasmes qui circulaient, envoyés d'ailleurs par les étoiles, dont les conjonctions étaient mauvaises. Donc, ou encore que la peste venait d'un pays étranger qui était infesté. Par exemple, durant la peste de Londres de 1665, on a pensé que ça venait des Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, où la peste avait sévi juste avant. Et donc, il y avait communication par bateau. Bon, quoi qu'il en soit, la cause numéro un, hein, restait la cause des péchés.
Est-ce qu'on le retrouve, d'ailleurs, très bien, encore aujourd'hui? Je me souviens, en Haïti, lorsqu'il y a eu cet épouvantable tremblement de terre à Port-au-Prince, des personnes disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de très mal. On le retrouve aussi en Afrique.
Absolument. Hein,
ces explications.
C'est une explication qui vient spontanément presque à l'esprit.
Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous écrivez dans votre livre Jean Delumeau, dans votre livre L'avenir de Dieu, concernant les peurs, dresser un inventaire, même incomplet, des peurs ordinaires d'autrefois, notamment celles des classes populaires, c'est être conduit à mesurer combien la science, la technique et avec elle l'esprit critique nous ont libérés.
Mais par exemple, alors, passons si vous voulez de la peur de la peste à la peur de la mer. S'il y a un élément qu'autrefois on redoutait, c'était la mer.
Oui, océan funeste, oui.
Comment, élément funeste.
Hein. Oui.
Et par conséquent, autrefois, voyager en mer, c'était risquer sa vie au sens strict du terme. Par conséquent, on comprend que, ou plutôt, maintenant, il y a bien quelques accidents maritimes, mais enfin, il ne serait pas venu à l'idée des gens du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, de faire une croisière maritime, une croisière de tourisme. Ça, c'est une idée qui était totalement absente. Et comme disait un dominicain qui allait au chapitre de son ordre à Rome au milieu du XVIIIe siècle, hein, on n'est jamais trop près du rivage. Je veux un petit peu revenir en arrière, oui, pour dire que quand j'ai terminé mon second livre, c'est-à-dire celui sur la réforme catholique,
oui,
entre Luther et Voltaire, j'avais presque du temps devant moi. J'ai fait de la bibliographie. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'histoire de la peur. Enfin, il n'y avait pas, si vous voulez, une réflexion historique générale sur la peur. Alors j'ai pris la résolution de m'y mettre. Mais en réalisant que ça allait me mener loin, parce qu'en même temps, je prenais la résolution de ne pas en rester à la peur. Et donc j'envisageais après déjà le sentiment de sécurité et l'histoire du paradis. Ça m'a pris plus de 20 ans de travail. Hein.
La peur, c'est la peur de la mort.
Ah, c'est la peur de la mort.
Hein, c'est la peur, elle tenaille toute l'histoire humaine. C'est évidemment la peur de la mort. Qu'auriez-vous envie de dire à vos contemporains, vous qui avez quand même 92 ans, c'est le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, ou bien, bon, c'est plus compliqué que ça?
Oui, alors, d'une part, la peur, je dirais, la peur est une réaction naturelle devant des dangers.
Et puis elle fait avancer le progrès aussi, la peur.
Eh ben oui, et les progrès font croître la peur, car l'arsenal atomique qui est maintenant engrangé aux quatre parties du monde, hein, génère ou devrait générer des peurs plus fortes que toutes celles que nous avons connues. On peut faire disparaître la planète maintenant.
Oui, en même temps, on peut être guéri grâce à la technique, au progrès de la médecine, de bien des maladies.
Oui, simplement. Ce qui est dangereux, c'est peut-être, ou probablement même, c'est qu'un jour, l'arme atomique tombe entre les mains de bandits, oui, comme ceux qui défraient la chronique maintenant.
Eh bien, on terminera naturellement, Jean Delumeau, sur votre conclusion, Inventer l'avenir. Une conclusion aux accents très personnels, je vais la lire. Il n'est pas déraisonnable à 92 ans de tirer les conclusions d'une longue vie de lecture et d'écriture et de passer du regard en arrière à la prospective. Deux affirmations de la poétesse Manique peuvent éclairer cette dernière démarche. Je viens du fond de mon enfance. Première remarque. Deuxième remarque, de réponse en question, j'ai beaucoup désappris.
Oui. Bon, c'est vrai.
Je viens de mon enfance.
Comment ?
Éclairez-nous sur cette phrase.
Oui.
Alors, du fond de mon enfance.
J'aimerais ne pas beaucoup en parler.
Bon. Alors, on n'ira pas plus loin sur cette
phrase. Merci.
On va aller sur la seconde. Ouais. Deux réponses en question, j'ai beaucoup désappris.
Oui, alors ça c'est exactement mon cas. Donc c'est la poétesse comme Manique, c'est ça, hein?
Oui, ah, oui. Oui,
c'est, j'aime beaucoup cette phrase. Hein, parce que j'ai beaucoup désappris sur le paradis terrestre. J'espère avoir beaucoup désappris sur l'enfer, etc. Hein. Par conséquent, plus tout ce qu'il a fallu abandonner, des pseudo-connaissances scientifiques de la Bible, surtout de la Bible de l'Ancien Testament. Donc, on a beaucoup désappris, c'est sûr. Tant mieux.
Et du coup, vous avez désappris certaines peurs, effectivement, les peurs de votre enfance, oui. La culpabilité, l'enfer. Voilà. C'est une libération pour l'homme de...
Oui.
Oui,
oui, c'est une libération. Hein.
De penser que l'enfer n'existe pas tel qu'on nous l'a appris.
En tout cas, oui, c'est une grande libération. Et le purgatoire.
Et le purgatoire, oui. Si le paradis existe, le paradis après la mort, ou une vie après la mort, comment l'imaginez-vous?
Alors, je me refuse à l'imaginer.
Pas de représentation,
non.
Là encore. Vous
non,
laissez ça à la peinture?
Alors, bon, la peinture, la sculpture, etc., ont beaucoup représenté le paradis, oui. Les chants aussi. Mmh. Hein. Mais maintenant... Je pense que nous ne pouvons pas imaginer ce qu'est le paradis, mais il faut faire confiance à Dieu. Il saura trouver, comment dirais-je, la situation de bonheur à laquelle nous aspirons tous.
Est-ce que vous pensez que le christianisme, même si la déchristianisation fut un des grands thèmes de vos recherches, est-ce que vous pensez que le christianisme a de l'avenir? Et si oui, où?
Alors, justement, je crois qu'il a de l'avenir. Je crois qu'il a de l'avenir parce que l'évolution économique actuelle aboutit à la victoire d'un égoïsme financier absolument mortel pour la civilisation. Par conséquent, je crois que le pape actuel est dans la bonne voie et il faudrait que les grandes ce monde viennent dans cette voie de compréhension des besoins réels de la planète. Et ça ne peut venir que par un esprit d'humanité, je dirais même de charité.
Là, donc, vous pensez que l'encyclique du pape François est une sorte de vademécum pour oui. L'homme de demain, c'est-à-dire arrêtons d'hyperconsommer.
Absolument.
Voyons la vie autrement.
Absolument. Je dois dire que je l'ai lu plusieurs fois et que je la trouve très belle et très intelligente dans la mesure où elle comprend bien d'où viennent les catastrophes actuelles, y compris les catastrophes climatiques.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.